vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France et merci d'être avec nous sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Et vous le savez, dans Heureusement en France, on aime parler d'activités ludiques et c'est avec un grand désespoir qu'on a vu cette annulation d'un grand salon, hein, puisqu'on aime bien ouvrir avec l'agenda. Et c'est le salon du Spiel qui n'aura pas d'édition en 2020. C'est ce qu'on a appris assez récemment. Alors quand est-ce que se passe le Alors on dit Spiel, mais on peut dire Spiels.
Alors
c'est
on
ça
dit Spiel en allemand, le Spiel. En fait, enfin le Spiel, c'est un trophée qui est remis courant juillet. Donc lui aura bien lieu. Par contre, après, tu as le salon du jeu à Essen. Donc c'est une ville d'Allemagne, à Essen, qui a lieu fin octobre, et c'est lui qui est annulé. Il faut savoir que ce salon, sur 4 jours, réunit environ, 180 000 personnes sur les 4 jours. Et donc c'est ce salon qui est annulé, en raison forcément du coronavirus. Par contre, bon, le Spiel en tant que tel sera, aura lieu en fait. Un jeu va recevoir le prix, le Spiel, mais bon, le grand salon mondial n'aura pas lieu malheureusement.
Donc Reynald est très déçu puisqu'il ne pourra pas proposer de jeu cette année, c'est ça?
Je fais encore un voyage retardé en un an.
Tu peux proposer tes jeux de 2019 qui ont pas été reçus et les ressortir en fait.
Avec juste la couverture qui change, histoire de les tromper, tu sais, qu'ils les réétudient encore.
Ça peut marcher, on sait jamais.
Ouais. Alors est-ce que vous avez vu quand même cette petite sélection de jeux? Alors à savoir que lorsqu'il y a une sélection comme ça, il y a plusieurs catégories qui sont présentées sur lesquelles plusieurs jeux vont être nominés.
Il y a toujours la catégorie historique, parce qu'au début, je crois que c'était la seule catégorie, c'est le Spiel des CRS, donc le prix des jeux, je ne sais pas
prix
comment
de l'année.
Ouais. Prix de l'année.
C'est le
prix
jeu
de l'année, en fait. Ouais.
Et il faut savoir que c'est pas rien, cette récompense, parce qu'en général, ça va multiplier par des ventes par beaucoup, on va dire. Il n'est pas rare que dans les jeux qui ont été récompensés dans les années précédentes, les jeux se vendent par dizaines, centaines de milliers.
En fait, les jeux allemands se font surtout dans l'achat des grandes surfaces, et les familles allemandes, n'étant pas très portées sur la chose ludique comme nous le sommes, vont se référer à ce prix pour savoir quoi acheter à leurs enfants.
En fait,
c'est pour ça que le Spiel des Jahres fait vraiment beaucoup pour l'économie du jeu allemand.
Le grand public ne suit pas tellement l'actualité des jeux comme nous on peut le faire sur les sites internet, sur les sites de news, sur Facebook et compagnie. Mais par contre, cette annonce-là, quand le prix est annoncé, c'est un peu comme le Goncourt, les prix littéraires en France, il y a des gens qui achètent jamais de bouquins, ils achètent juste le Goncourt une fois par an et c'est tout. Et c'est pour ça que le Goncourt, ça vend plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Après, ils l'achètent. Est-ce qu'ils le lisent? Pas forcément, mais...
Est-ce que vous avez acheté le dernier vainqueur du Spiel?
Je ne m'en souviens même pas, mais je tiens pas compte de ça, quoi.
Après, il y a pléthore de jeux qui sortent par an, donc
alors,
tu peux avoir ça comme prix pour le jeu allemand, t'en auras un autre pour le Last Door, pour le jeu français, t'en auras un autre pour les États-Unis, enfin.
T'as Cannes aussi, en début d'année.
Ouais, donc pour Last Door, donc t'en as trop pour tout ce qui jouait de toute façon.
Si t'as un budget limité ou que tu veux te limiter forcément, à la limite, tu prends soit le Spiel, soit le Last Door, etc. Ça, tu as une petite sélection, t'es à peu près sûr que c'est des jeux qui vont te plaire, quoi. Qui sont de bonne qualité. Et qui seront normalement disponibles parce que le prix est annoncé au mois de juillet, c'est-à-dire quelques mois, quelques semaines avant le salon lui-même, pour que justement, les imprimeurs aient le temps d'imprimer une bonne quantité de jeux. Parce qu'il est pas rare que c'est déjà que le jeu soit en rupture de stock au moment du salon, au moment de l'annonce du prix. Il ne fait pas vraiment. Quoi.
Ils ont effectivement une obligation d'éditer, je pense, ça va être 100 000 boîtes. Donc entre juillet et le salon d'Essen, qui a lieu, donc je disais fin octobre, parce que comme le disait Dominique, ça vous fait des ventes assurées. Après,
ça serait vraiment intéressant de voir, comme là le salon est annulé, je pense que ça doit être une première dans l'histoire du salon, de voir l'importance du poids justement du salon dans la vente des jeux qui ont été primés par rapport aux achats grande surface. Savoir si l'économie allemande se fonde autant sur le salon que sur la grande surface. Si tu as plus de jeux qui ont été édités mais non vendus, ou l'inversement, si tu as toujours la rupture de stock et que les jeux soient vendus quoi qu'il arrive. Ça donnerait vraiment une bonne mesure de est-ce qu'ils ont besoin des étrangers qui viennent dans leur salon, parce qu'il y a énormément de Français et d'autres pays qui viennent dans le Essen, qui achètent leurs jeux là-bas aussi, et s'il y a par exemple que les Allemands qui achètent leurs jeux et que ça leur suffit.
Alors, est-ce que quand tu fais autant de voyages pour aller voir ce salon, est-ce que forcément tu vas aller... Ta priorité c'est d'acheter des jeux ou c'est plus d'en tester ?
D'en tester. Après, il n'y a pas forcément de grandes promotions sur les jeux neufs. Tu peux trouver des jeux d'occasion, des anciens jeux à des prix réduits. Tu peux trouver des jeux sortis il y a quelques années à des prix réduits. Mais si tu veux les nouveautés, tu n'auras pas forcément de grandes ristournes. Donc, ce n'est pas très intéressant pour ça.
Est-ce qu'il y a un marché de l'occasion ?
Oui. À part certains visiteurs, j'ai envie de dire, qui prévoient un petit peu comme pour le festival de Cannes de cinéma, il y a certains films qui sont programmés pour sortir au moment du festival. Il y a certains gros jeux, j'imagine, qui sont prévus pour sortir juste avant. C'est la date que tout le monde, tous les éditeurs et les auteurs se fixent dans l'année. C'est SN. Est-ce que mon jeu sera disponible à SN? Tout comme, est-ce que mon film sera disponible à Cannes? Et est-ce que ma série sera disponible à Série Mania, par exemple, etc.
En plus, t'as aussi, comme c'est un salon international, tu y vas pour aller rencontrer des éditeurs qui sont pratiquement inconnus au bataillon, comme les indépendants japonais. Voilà, tu sais que tu ne les rencontreras jamais, tu pourras même pas tester leur proto ou tester leur jeu, en dehors de ce salon-là, où ils auront une toute petite table dans un hangar énorme, où tu pourras après les choper vraiment au cas par cas.
Pour qu'ils signent ta boîte.
Entre autres, mais aussi surtout pour retrouver des petites perles ludiques qui sont inconnues et qui passent pas du tout sur les sites de référence. Et là, tu pourras vraiment trouver des jeux intéressants.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses en négociation entre les éditeurs, les auteurs et compagnie. Ouais, ouais. Sinon, les nominés pour cette année sont, alors, dans la catégorie donc, du Spiel des CRS, il y avait 9 jeux retenus, mais on va parler que des 3 qui sont en lice. Donc il y a Nova Luna, un jeu de Uwe Rosenberg, My City, un jeu de Ragnar Knizia, ça c'est déjà des noms qui disent des gens qui aux joueurs habituels, et Pictures, qui a l'air très sympa, de Daniela et Christian Ostor, donc 3 jeux d'auteurs allemands, hein, c'est pas très original mais bon.
Alors My City, apparemment, vous allez poser des pièces qui ressemblent un peu à des pièces de Tetris. On est là un peu entre la frontière de Carcassonne et de Tetris, j'ai l'impression.
Et tu rajoutes en plus une composante Legacy dont on avait déjà parlé. C'est-à-dire, c'est un jeu qui va se passer en 24...
Tu vas brûler des tuiles.
Peut-être, je sais pas. C'est un jeu qui se diffuse en gros, il y a 24 épisodes et le jeu va évoluer en fonction de ce qui va se passer. Celui-là, j'avoue, j'ai hâte de voir. En plus, bon, Ragnar Knizia, l'auteur, on en dit ce qu'on veut, mais il a souvent sorti des bonnes choses. Donc, on va voir ce que ça donne.
Pas que. Le matériel me donne pas trop envie d'essayer, malgré que ce soit un Legacy.
C'est un jeu allemand, hein, donc le look et les couleurs, c'est jamais été. Ils s'améliorent, les Allemands. Au début,
ils s'améliorent.
Cosmos, l'éditeur Cosmos sort quand même des belles boîtes et tout ça, effectivement, en grande quantité. Bon, on peut lui faire confiance là-dessus.
Une grosse boîte pleine de cartons, ça va être pas mal et lourd. Et le troisième picture, ça m'intéresse aussi parce que c'est un jeu d'ambiance. Donc, il y a tout un paquet d'images qui sont au milieu de la table et chacun des joueurs a des cubes en bois, des cylindres, des bâtons, enfin plein de petits éléments. Et avec ces éléments, il doit reconstituer une des images qui sont au milieu de la table. Et les autres joueurs vont devoir deviner, avec son œuvre, sa sculpture, son petit montage, quelle image il a choisi. Il y a un mélange de Dixit, de plein d'autres jeux qui existaient déjà. Pourquoi pas, que ça donne.
Ça promet des bonnes rigolades. Hein.
Oui, surtout qu'il y en a qui sont très mauvais en art plastique.
Et il y en a qui sont très mauvais joueurs, de très mauvaise foi, oui, tu peux le dire.
Et généralement, ça va de pair.
Et tu peux rajouter en début ou en fin de soirée. J'ai connu des fins de soirée où ce genre de jeu, c'était, il faisait la nuit.
Eh oui.
Alors comment tu fais la tour de Pise avec des blocs de bois ?
Mais un cylindre et puis tu mets un petit bâton en dessous pour qu'elle soit penchée.
En début de soirée, ça peut fonctionner, je pense.
Ouais. En fin de soirée, tu la mets droite et tout le monde la voit penchée, donc c'est bon.
Et Nova Luna, c'est également un jeu de placement de tuiles. Et qui avait été présenté en 2019, je vois.
Jeu abstrait allemand.
Vraiment basé sur la stratégie.
Les objectifs, etc. Faut voir. Mais bon. La catégorie suivante, la catégorie Kinderspiel, qui a été créée il y a quelques années, donc c'est la catégorie enfants. Même si les autres jeux dont tu viens de parler, on peut y jouer avec des enfants. Mais là, c'est vraiment dédié pour les enfants. On a Speedy Roll, alors je vais pas prononcer le nom de l'auteur. Il est pas allemand, il doit être suédois. Photofiche de Michael Kahl, un allemand. Et Winsind die Roboter, un jeu avec des robots. Bien joué.
Nous sommes les robots. Virgil die Roboter.
Alors, Photofiche, apparemment, c'est un jeu de mémoire où vous allez devoir...
Un jeu d'adresse. Oh là, jeu de course, basé sur l'adresse. Ah, c'est, on commence à avoir des jeux qui mélangent le tout, donc qui mélangent le jeu de course et l'adresse. Faut lancer une balle avec un scratch sur le plateau de jeu.
Ah non, ça c'est Roulapic, ça.
C'est Roulapic. Ah, c'est Roulapic, ouais. Autant pour moi.
Oui. Ah oui, bien sûr. Après, quand on dit que ce sont des jeux pour enfants, c'est-à-dire que ce sont des jeux à partir de 4-5 ans.
Donc tu lances une balle et elle récupère les objets sur le terrain, vu que tout va s'accrocher.
C'est une balle avec une sorte de petit velcro tout autour, et c'est une course où quand tu jettes ta balle, tu dois récupérer des choses pour avancer, ou te bloquer, mais les choses qui te font bloquer te permettent de gagner des points. Donc c'est là un petit jeu pour enfants qui te permet de demander à l'enfant de soit il va avancer à fond, mais... J'allais le dire juste après.
Oui, effectivement.
Et là, on va plutôt se la lancer sur nous pour. Enfin, bref. Mais.
Encore la catégorie jeu pour adultes bourrés, franchement. Il y aurait beaucoup de choses.
C'est clair. Juste pour celui-là, l'enfant doit savoir faire le choix entre avancer vite et arriver premier, mais peut-être pas marquer beaucoup de points. Et à l'inverse, être lent, mais marquer beaucoup de points. Mais est-ce qu'il va arriver à temps?
Et le troisième, le jeu avec les robots, un jeu coopératif qui fait penser à The Mind. Alors ça, rien qu'à dire ça, ça met des frissons.
Ouais. Mais avec des enfants de 4 ans, c'est un peu compliqué du coup, The Mind, quand même.
Ah, ils sont balèzes, les enfants, en mémoire. Hein. Ouh, attention.
Ouais, mais alors The Mind, en fait, c'est pas tellement la mémoire, c'est plutôt...
Juste qu'ils savent qu'ils savent chanter jusqu'à 100.
Et on parle de The Mind...
C'est la triche.
On parle de The Mind, on peut parler aussi de The Game. C'est deux jeux d'ambiance qui tiennent vraiment dans la poche, que vous pouvez sortir à n'importe quelle occasion. Des jeux vraiment sympathiques. On en a déjà longuement discuté dans Heureusement en France. Mais voilà, si vous cherchez un petit jeu, une valeur sûre.
Très bonne transition, parce que si vous cherchez un petit jeu dans le genre de The Mind et The Game, il y a justement The Crew, qui fait partie des nominés de la troisième catégorie, la catégorie expert, les Kennerspiel. Alors là, quand je vois la liste des nominés qui n'ont pas été retenus, il y a déjà du très lourd. Il y a même Res Arcana, mon petit favori, qui n'a pas été retenu dans les trois, dans le podium. Donc on a King's Dilemma, de Lorenzo Silva et un nom imprononçable. On a The Crew, de Thomas Singh, chez Cosmos aussi, et le cartographeur, enfin les cartographes, et j'imagine qu'il sera traduit sous ce nom-là, de Jordi Adan. The Crew, c'est pareil, c'est un petit jeu. Alors c'est amusant parce que King Dilemma et Cartographe, c'est des grosses boîtes qui vont être aux alentours des 30-40 euros, j'imagine. Tandis que The Crew, c'est comme The Mind et The Game, c'est un jeu qui va coûter 12-13 euros au maximum en magasin. C'est un jeu coopératif qui fait un carton au niveau sur tous les sites, les blogueurs ou les chaînes YouTube de jeux que j'ai vus. Les gens, ils ont que ça en tête. Ils font une partie et ils en font 2, puis 3, puis 20, puis 100, puis 1000 parties d'affilée. J'ai hâte qu'ils sortent. Il était disponible qu'en allemand, il est sorti en anglais, il va bientôt sortir au mois de juin, je crois, en français.
Ah, précisons quand même que c'est un jeu coopératif.
Exactement. Avec des cartes et des scénarios et que tu recommences sans arrêt. Et ça a l'air très, 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 très prenant.
Moi, c'est Cartographe qui a l'air de m'interpeller. Ça a l'air assez sympathique.
Cartographe, c'est juste un card and draw plutôt qu'un roll and write, on va dire ça comme ça, où tu retourne des cartes qui te donnent des formes géométriques un peu à la Tetris pour dessiner sur l'espace de ta feuille, sachant que à un moment donné tu vas avoir une carte qui va te dire c'est le moment de faire le comptage. Et comment se fait un comptage? C'est que tu as des cartes A, B, C, D qui se retrouvent au-dessus de toi, et en dessous elles te donnent ce qui va être compté à ce moment-là. Et le premier comptage, c'est par exemple de compter ce que te donnent les cartes A et B. Donc des objectifs à faire. Le prochain comptage, ça sera les cartes B et C. Donc, en fonction de ce que les cartes vont te proposer à dessiner, tu vas te dire le prochain comptage, ça va être ça à dessiner pour que je gagne des points. Mais ça m'avantage pas parce que derrière le prochain comptage, j'aurai besoin de ça. Ou là, je suis plus majoritaire.
Donc, sachant que vous avez de la place limitée sur votre petite feuille, il va falloir bien gérer pour remplir tous les objectifs.
Les jeux dans ce genre, mais il y en a eu des tonnes récemment et ça a de plus en plus de succès.
Le dernier, je pense, l'un des plus connus, c'est Isle of Skye. Même si au début, il y a une phase d'enchère pour acheter des tuiles, mais c'est comme le disait Reynald, en fait, vous savez à l'avance les différents décomptes qu'il va y avoir pendant toute la partie.
Et donc, c'est
vous
en avez
votre jeu chaque tour. Voilà.
Dans celui-là, ce qui n'est pas trop mal en plus, c'est qu'il te ramène une petite interaction entre joueurs un peu malsain, qui est quand une carte monstre apparaît, tu passes ta feuille à ton voisin, qui lui va dessiner le monstre. Et le monstre, est pour l'empêcher de te nuire, il faudra l'entourer d'autres choses, de montagne, de ville, de maison, enfin n'importe quoi, est-ce que sinon il te fera perdre des points fin de partie. Donc c'est, tu peux te réserver des places en disant bah là il me manquera plus qu'une forêt et je vais marquer plein de points. Une carte monstre apparaît, bah forcément ton adversaire va mettre le petit monstre là où il y a la forêt. Merci d'être venu. Bon.
Après, ce qui est surprenant, c'est que même dans ces jeux experts, en fait, la durée des parties n'est pas très longue, vu que c'est maximum une heure. Alors que les jeux experts, généralement, c'est plutôt une heure et demie, deux heures, voire plus.
Ouais, là, tu fais vraiment une partie, quoi.
Là, il n'y a pas de gros jeux, quand même.
C'est pas des gros jeux, mais c'est des jeux qui vont te retourner le cerveau, quand même.
Ouais, ils sont assez complexes, mais ils prennent pas trop de temps.
Et que tu peux recommencer très rapidement. Et tu peux jouer The Crew, tu peux... Enfin, oui, pratiquement, tu peux jouer sur une table de TG, quoi. Enfin, une... c'est vraiment impeccable. Là, j'avoue que pour les deux autres catégories, je vois pas trop, je les connais pas assez les jeux. Là, je pense que The Crew, vu le buzz qu'il fait, et vu que les années d'avant, on a eu The Game et The Man qui ont gagné, je serais pas étonné que ça soit The Crew qui l'emporte.
Alors, quand tu dis les années d'avant, Dominique, savez-vous depuis quand le prix, le Spiel des Jahres existe?
Je dirais 25 ans, je sais plus.
François, tu n'étais pas né, donc ça fait plus que 25 ans, Dominique.
1980.
Ah, presque. Encore un peu plus vieux.
Est-ce que j'étais né aussi, moi? Bonne question. Comme ça, on gagne un deuxième.
Oui, oui, oui.
Ah, bah alors, 77-78.
Et voilà, 1978, effectivement.
Ah. On va après, pouvoir faire un juste prix bientôt.
Voilà, bon, en sachant que ça, c'est le Spiel des Jahres. Après, le salon de jeu Essen, par contre, je pense lui doit être un peu plus récent. Enfin, un peu plus récent.
Puis, il a peut-être dû évoluer, quoi. Peut-être qu'au départ, c'était une. Enfin, l'évolution des jeux qu'on peut y trouver est différente, quoi. Oui. On peut aussi trouver, il y a des jeux, mais aussi on trouve des jouets, il y a tout l'univers de la maquette, les trains, le modélisme, j'imagine, enfin, je sais pas, c'est possible, mais.
À Essen, tu peux trouver, alors, des figurines, des trains, j'en ai pas souvent vu.
Du jeu de rôle aussi. Ouais.
Du jeu de rôle, oui. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de cosplay. Qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui, mais tu peux encore acheter bah, des armures et autres, hein, et des armes en plastique, bref, je ne sais pas quelle est la matière.
Il y a des jeux outdoor aussi, ouais. Type Molky ou autre
Des jeux en plein air, ouais, malgré que ce soit dans un hangar, mais t'as des grandes surfaces avec des les trampolines géants, par exemple.
Ah oui, dans la grande galerie, effectivement.
Ouais, j'ai failli perdre le mot en plus.
Et ça, c'est pour te débarrasser de ton gamin pendant que tu fais une partie de 60 minutes sur un gros jeu.
Comme ça, sans surveillance.
Vous laissez effectivement votre enfant là-dedans, vous laissez, admettons, votre femme au puzzle géant et vous allez jouer au jeu pour les barbus à côté. Tout à fait.
Par contre, parce que maintenant, ça peut être l'inverse. Hein.
Par contre, j'espère que vous aimez, quand vous rentrez dans un hall, sentir la bonne odeur de saucisse parce que ça surprend un peu quand même. Hein.
C'est le plat traditionnel du salon, c'est ça?
Ah, la currywurst, tout à fait, la saucisse au curry. Et oui. Alors traditionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, en Allemagne,
je pensais que tu allais dire le chou avec la choucroute saucisse, mais bon.
Ah, en Allemagne. Ils doivent en vendre aussi. Ils doivent en vendre aussi.
Je vous propose d'écouter un peu de musique. Et j'ai remarqué qu'il y avait un nouvel album de Bob Dylan qui allait sortir. Et c'est vrai qu'à 78 ans, Bob Dylan continue un peu la musique, ce qui est assez impressionnant. Un peu moins lorsqu'on écoute le dernier titre de son album. Alors, est-ce que vous voulez qu'on commence par le début ou qu'on commence tout de suite par écouter ce nouvel album, quitte à être dégoûté de Bob Dylan par la suite?
Il faut le faire chronologiquement, le plus ancien d'abord, pour voir l'évolution.
Quand est sorti d'ailleurs, hein, puisqu'on fait des petits jeux comme ça, quand est sorti le premier album de Bob Dylan?
Ça doit être sorti de mes grands-parents, donc dans les années 1800.
1800, oui, au moins.
Ouais, il est vieux maintenant, lui.
C'est pas l'album de Michel Drucker, c'est l'album de Bob Dylan.
Fin 1960, je dirais.
C'est ça, 62, avec un album qui porte le nom Bob Dylan. Je vous propose d'écouter la Song to Woody, une de ses premières chansons.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing a world of people and things. Hear paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to you, the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
Voilà, du bon vieux Bob Dylan. On verra si il y a toujours un bon cru sur ce dernier album qu'on écoutera tout à l'heure. À prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà. On parlait tout à l'heure d'un jeu qui s'appelle Die Crew, qui était un peu basé dans l'espace. Et la semaine dernière, nous avions promis de parler d'Elon Musk, ce qui est tombé complètement à plat puisqu'on était pris dans nos sujets habituels. Je vous propose de rattraper ce dossier qui grossit de jour en jour, hein, la pile augmente.
Elon Musk aussi grossit, non, j'ai l'impression, il se laisse un peu aller.
Ah, bah, qui n'a pas grossi pendant le confinement, c'est la question.
Joker.
Et... Je ne suis pas posé. Donc,
une des news qui a été révélée assez récemment, Elon Musk a de nouveau un peu remis le couvert et une nouvelle petite fille. Sauf qu'il a décidé de nommer ce bébé d'une façon très particulière. Alors, si quelqu'un se sent de sortir ce nom comme ça d'une traite à lui, je vous invite à le faire maintenant. Je peux l'appeler donc X espace A et E mais collé espace A tiré 12. XAEA-12. Voilà le nom qu'a choisi Elon Musk pour sa progéniture.
Et ça a été accepté. Incroyable.
Alors, est-ce qu'en aux États-Unis, il y a comme en France, je pense qu'en France, tu ne peux pas mettre.
C'est à discrétion de l'employé de mairie, voire de, ouais, du préfet, ça dépend. Mais maintenant, on peut faire pratiquement n'importe quoi.
Donc, Elon Musk, effectivement, lui peut surtout faire n'importe quoi. Alors, il a expliqué, tout simplement, le X est une variable un peu inconnue.
Comme dans toute équation, c'est une équation mathématique, la variable X.
Voilà, AE sonne un peu comme AI, donc il y a un mix entre l'amour et l'intelligence artificielle. A12, c'est le précurseur du SR-17, qui est son avion préféré. Voilà, il parle pas ici d'armes ou de défense, juste par rapport à sa vitesse.
Mais quand tu prononces bien, peut-être que ça ressemble à un vrai prénom. Enfin, ça peut pas être pire que certains prénoms.
Alors, le 12, j'ai un peu de mal à voir quand même.
12.
Ouais.
Alors, apparemment, il y a des concours pour essayer de prononcer ce nom. Lui-même a donné quelques indications. Bon, surtout, alors après, si tu le traduis en français, ça devient un peu difficile.
Bon, il va avoir un diminutif, mais maintenant, jusqu'où va le diminutif avec toutes les lettres que possède son nom ? Parce que si tu lui mets juste X, quand tu vas faire plein de contre X, toi, il va recevoir plein de lettres d'avocat, mais bon.
Tu parles d'avocat, lui n'arrêtent pas de se battre, hein, je pense, au niveau légal, et notamment avec ses usines Tesla, puisque dernièrement, il a essayé de redémarrer ses usines qui se situent en Californie, hein, si je me trompe pas.
Oui, les dernières usines de construction de voitures dans la Californie, exactement.
Donc il voulait ramener 30% de ses employés pour relancer un peu la production des Tesla. Sauf que l'État a plus ou moins refusé sa requête. Et lui, c'est un peu a essayé de se justifier en disant « Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires afin que les gens puissent venir travailler dans de bonnes conditions sanitaires. » Mais ça a été refusé apparemment par l'État de Californie.
Bah, t'as l'État de Californie qui a mis en place l'extension du confinement pendant un mois ou deux encore, un mois sûr, et ce qui l'a empêché de reprendre l'activité de son usine de construction de Tesla. Il avait menacé de se barrer dans un autre, j'allais dire département, mais un autre État des États-Unis, avec son QG et l'usine de Tesla, justement pour redémarrer sa productivité, mais en fait il a considéré que fuck l'État, fuck l'administration, et on redémarre.
Pourquoi il crée pas son propre état, il doit avoir les moyens.
Ouais, mais bon.
Pourquoi pas?
C'est pas encore
un état tout pourri, genre l'Alaska ou personne.
Mais, non, il veut aller sur Mars. Sur Mars, il fera ce qu'il veut, t'inquiète pas.
L'Alaska, il y a des richesses en Alaska, attention. Hein.
Ah bon?
Tu imagines si Elon Musk va s'installer au Texas, ça va le multiplier par nos news par je sais pas combien.
Ouais, c'est assez marrant qu'ils choisissent le Texas ou le Nevada comme premier lieu. Pour déplacer son entreprise. C'est vrai qu'au Texas, on s'en fout un peu des règles sanitaires.
Et suivant leur positionnement par rapport justement à ce qui se passe au niveau du Covid et puis des agissements pro ou contre Trump, savoir si tu es vraiment le confinement ou anti-confinement total, suivant l'État concerné, puis tu auras plus de facilité à reproduire.
Le Texas, c'est un État, je sais pas, peut-être un des États aux États-Unis où on trouve le plus de pétrole. Le pétrole est un moyen d'une ressource bien présente, donc c'est bizarre d'aller installer une usine de voiture électrique là-bas.
Peut-être que ces usines, elles tournent au pétrole, et ça, on le sait pas.
Le grand mystère. Après, bon, s'il faut, je pense qu'il peut appeler le président Trump en disant « Mais quelle honte, on m'empêche de faire travailler et de relancer l'économie américaine. »
Moi, je pense qu'il aura une bonne oreille à ce niveau-là, hein.
Bah après, n'importe quel état peut lui faire du gringue pour dire « Viens mettre ton usine de Tesla chez nous, ça nous fera de la pub, et puis ça remontera un petit peu aussi le côté des emplois de par ici. » C'est toujours bon à prendre une usine.
Je me demande pour quand il a planifié sa candidature à la présidence des États-Unis. Forcément, c'est prévu à un moment dans son parcours.
Ou un état un peu plus grand que les États-Unis.
Bah, il va commencer
un ordre mondial.
Il n'a pas fait de politique pour l'instant.
Il va prendre l'espace, il va gouverner l'espace.
Et comme la Terre est dans l'espace, voilà, fin de l'histoire.
Non, mais il va faire des voyages touristiques, et puis dès qu'il y aura un gros bonnet dans la navette, il va dire « Bah non, si tu veux redescendre, tu me donnes tes voix. »
Pour avoir écouté récemment plusieurs interviews d'Elon Musk...
J'ai cru que t'allais parler de chansons, ouf, ça va.
J'en ai encore en stock, hein, faites attention. Hein. Mais c'est vrai que Elon Musk a une vision de l'intelligence artificielle, et notamment de l'évolution humaine. Il a vraiment une pensée un peu particulière, hein, puisque il pense notamment que, par exemple, il y aurait le langage humain pourrait être obsolète assez rapidement, qu'on n'aura plus besoin de parler.
En fait, pour ça, il pourrait mettre un implant dans le cerveau humain. Et du coup, effectivement, grâce à cet implant, en fait, vous pourriez vous passer du langage humain, ou alors le garder uniquement, on va dire, pour le roleplay en quelque sorte. Mais effectivement, à terme, avec ces implants, vous pourriez faire beaucoup de choses. Un peu comme dans Matrix, en fait, où hop, on vous télécharge le module qui va bien et puis vous pourriez apprendre un peu tout ce que vous voulez. Et du coup, effectivement, avec cet implant, on pourrait alors se passer du langage humain.
Qui d'entre vous serait prêt à se mettre un implant comme ça?
C'est tentant, mais non.
Est-ce que vous pensez pas que... Parce que ça, c'est l'argument d'Elon Musk. Il dit vous êtes contre une implémentation de technologie dans votre cerveau. Mais est-ce que votre téléphone n'est pas déjà une implémentation que vous avez déjà?
La limite est déjà, on n'est à rien à franchir, quoi.
Mais si tu veux, elle n'est pas déjà dans, enfin, elle n'est pas dans le corps, justement.
Elle n'est pas en contact, chirurgicalement. Voilà. Quoi qu'il y a des gens s'il y a des essais, on sait qu'il y a des expériences et que ça marche, mais.
Mm-mm. Après, n'oublions pas que l'implant, enfin, il peut aussi aider les gens qui ont des déficiences. Typiquement, par exemple, ça pourrait aider les gens aveugles avec des défauts visuels, avec des difficultés visuelles.
C'est déjà le cas, effectivement. Il y a des gens qui ont greffé des... Ça peut être, de toute façon, le limite, après l'organe, est-ce que l'organe devient intelligent dès que tu mets une puce dedans, etc. Mais pour l'instant, oui, il vaut mieux réserver ces technologies pour aider les gens qui en ont besoin. Mais faire ça pour, quand on n'a pas besoin, pour améliorer tes capacités, bon, pour l'instant...
Bah, oui, mais imaginons après l'implant, si ça peut te permettre de parler toutes les langues qui existent sur Terre, ou de transmettre directement ta pensée sans déformer par les mots et autres, enfin, ça peut aussi être intéressant.
Après, imaginez, c'est comme si... Ouais. Non, vas-y, finis.
Imaginez après, c'est comme si vous aviez tous un C3PO à côté de vous, mais sans le C3PO en fait. Donc ça peut être bien aussi.
Oui, parce que l'entendre parler à longueur de journée, je pense qu'on aurait tous massacré au bout de 20 minutes.
À chacun mettra la limite à partir de laquelle les informations qu'il va transmettre ou recevoir, qui est derrière, qui les gère, et est-ce qu'il y a un réseau, est-ce que tout le monde peut avoir risque, est-ce que tu peux te faire hacker ton cerveau, enfin, c'est ces limites-là qui vont être les premières à poser, quoi.
T'avoues que ça reste un fantasme de qu'on peut tout avoir dans le jeu de rôle, les films, les jeux vidéo, etc., de tout ce qu'on peut croire et espérer, mais derrière c'est est-ce que ça va être avec un logiciel, quel logiciel, est-ce qu'il peut être piraté comme disait Dom,
qui va le développer, qui va le contrôler, etc.
Qui va le contrôler, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il peut avoir une interaction sur le corps, alors que normalement d'après Elon Musk c'est sur l'ensemble du cerveau, mais de fait quand on voit que le simple choc peut avoir un trauma crânien et tout ce qui se passe à l'intérieur de la cavité crânienne, mettre un implant et il suffit qu'il se passe quoi que ce soit, une rupture de, je sais pas, de jointure, enfin, tu peux tout imaginer de pire et de bien. Je suis pas sûr qu'on est encore prêt à passer le pas juste comme ça, quoi, hors médicalement parlant.
Tu n'es pas fun, Reynald. C'est...
Imagine, tu pourrais danser comme John Travolta, quoi. Ça serait génial. Tu télécharges le programme et hop.
Alors, à force d'exprimer.
Maintenant
voilà, ouais.
bah ouais, ça peut
être ça. Qui craque de partout. Mais c'est vrai qu'il affirme de plus en plus ses désirs de vouloir travailler comme ça sur l'intelligence artificielle et sur une sorte de fusion entre le cerveau et l'informatique, hein, pour faire ça simplement. À tel point que des personnes de Facebook, et ici c'est Jérôme Pessanti, qui travaille sur l'intelligence artificielle à Facebook, a tweeté une information comme quoi il certifiait qu'Elon Musk n'avait aucune idée de quoi il était en train de parler. Elon Musk a répondu à ce tweet « Facebook sucks ». Je pense que...
Ah oui, ça va être un grand ami de Trump alors. Il y a un peu les mêmes tweets du coup.
Moi je pense que ça marche bien aux États-Unis et surtout qu'il veut rester dans son monde sans entrer dans le débat avec notamment ici Facebook.
Alors, petit sondage quand même, du coup, Reynald, quand tu disais que tu n'étais pas vraiment tenté par les implants. Dans les jeux de rôle, genre Cyberpunk, Shadowrun et autres, quels sont ceux d'entre nous qui ont déjà joué soit des interfacés ou comment, ou des Netrunners et autres?
Je jouais un mage, je n'avais pas le droit.
Voilà, effectivement.
Mais
tu vois, comme tu dis, c'est un jeu. Tu vois, c'est un jeu de rôle. Si jamais un coup, il se passe mal, le MJ reprend ton perso, il déchire la feuille, il dit voilà, maintenant t'en refais un autre, ça a mal tourné. Alors que si tu mets ta puce et que ça part en couille, le MJ suprême auquel tu crois, il va pas t'attraper ta feuille, il a déchiré, il va dire ah, bah non, tu renais et démarre, quoi. Ça se passe pas comme ça, quoi.
Ça pourrait faire un beau débat.
Ouais.
Avant de continuer avec Elon Musk et de partir dans l'espace, je vous propose de continuer cet instant Bob Dylan qu'on a initié tout à l'heure. Alors on était parti en 1962, ici on va partir en 2017. Alors déjà on va faire un grand saut là. Et juste après, forcément on aura ce nouveau single qui a été proposé, qui est disponible maintenant, qui s'appelle False Prophète. Alors l'écoutez pas tout de suite, on va le passer. Donc ici on va écouter Bob Dylan avec I Could Have Told You.
I could have told you she'd hurt you. She'd love you a while, then desert you. If only it had
could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying. But you were in love, I didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. To all of my tears, I could have told you so. Toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so.
Bob Dylan, et il nous restera un petit morceau à écouter tout à l'heure, un morceau de 2020, et ouais, puisqu'à 70 ans, 78 ans, il y en a encore qui font de la musique.
J'ai cru que tu vas dire un morceau de 17 minutes.
Ah non, mais il y en a un, effectivement, qui est issu du même album. Après, on peut éventuellement le proposer à une autre émission, comme ça nous on perd moins de temps, je sais pas. Un jour, écoute, sur un back-to-back, tu pourras mettre ce morceau de 17 minutes.
On fait le back-to-back morceau le plus long, comme ça on en choisit un chacun, et puis on lance le back-to-back, puis après on pourrait prendre une bière.
Ah, je mettrai les Doors alors.
Alors on va partir, comme je vous l'ai dit, dans l'espace. Vous savez que actuellement, donc, nous avons l'ISS hein, qui fait le tour de la planète 16 fois par jour. Dans cette station internationale, il y a beaucoup d'expériences. Majoritairement, ce sont la NASA, l'ESA, les Russes qui vont également souvent dans la station internationale. De temps en temps, le Japon. C'est vrai que la NASA a arrêté de lancer ses vaisseaux de 1 parce que ça coûtait trop cher. Et c'est vrai que c'est quand même une technologie assez risquée. Hein. Ici, on envoie quand même 3 à 4 personnes sur une roquette. Hein. On appelle ça une fusée, mais à la base, c'est vraiment un missile.
Ah, c'est vraiment sur une bombe. Les premiers essais, je me souviens que les astronautes disaient, en fait, comment ça marche? On te met sur une bombe, on allume la mèche, puis on prie pour que ça marche, pour que t'exploses pas tout de suite.
Alors, est-ce que vous voyez un peu à quoi ressemble une cabine Soyouz? C'est vraiment très petit, c'est blindé de partout, et on retrouve une technologie qui date des années 70, avec des vieux boutons, le tout en russe. Donc, lorsqu'un astronaute de la NASA ou de l'ESA souhaite aller sur la station internationale, il n'a pas le choix que d'apprendre le russe pour pouvoir être formé sur l'équipement de...
En même temps, effectivement, c'est un vieil équipement, mais au moins c'est éprouvé. Vous êtes sûr que ça va durer. Vous n'avez pas à craindre un blue screen of death, comme on dit. Au moins, vous savez que c'est construit, ça dure, vous pouvez avoir confiance.
Et Elon Musk, avec SpaceX, depuis plusieurs années maintenant, travaille sur sa propre capsule qui est appelée Crew Dragon. Et ils ont effectué dernièrement plusieurs tests. Ils ont réussi à faire un arrimage de leur capsule sur l'ISS, mais cette fois-ci vide, puisqu'il n'y avait aucun astronaute à l'intérieur. Et là, on va enfin avoir la date de la première mission habitée de leur vaisseau et de leur capsule.
C'est le 27.
Se donne. Et il faut voir, alors je vous invite vraiment à aller regarder des images ou des vidéos de cette nouvelle capsule SpaceX qui sera lancée avec deux astronautes de la NASA cette fois-ci. C'est le jour et la nuit. On passe des écrans tactiles avec un décor minimaliste et de la place. Hein. Ils peuvent bouger les bras, ce qu'ils ne pouvaient pas faire quasiment dans l'ancienne capsule. C'est impressionnant. Alors, si vous êtes vraiment intéressé par ça, vous allez pouvoir suivre en direct l'événement le 27 mai. C'est le vol démo 2 avec les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken qui s'envoleront notamment pour la station spatiale. Et si vous êtes passionné du genre, vous pouvez vous-même, sur un des sites de SpaceX, faire votre arrimage avec la capsule, avec un simulateur. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça ?
Je viens de l'essayer là pendant l'émission, c'est terrible.
Ah bah bravo.
Ouais, ouais. J'ai essayé aussi.
C'est pratique parce que t'as rien à installer, tu lances la page et tout est géré sur dans ton navigateur. T'es en anglais.
Ah, c'est assez cool,
mais y a rien à installer. Au moins c'est pratique.
Après tu fais quelques tests, t'appuies sur les boutons à droite à gauche, tu vois ce qui se passe, tu comprends assez vite le process. Mais...
Il manque la musique de Ainsi par les Zarathustra, tu sais, comme qu'on entend dans 2001 du fait d'espace.
Ouais, mais il y a Al qui t'aide, donc c'est bon que.
Sinon tu mets du Bob Dylan.
Non, après c'est vrai que c'est assez compliqué effectivement. Ce simulateur, c'est très intéressant, mais assez complexe.
C'est vrai que tu perds pas mal tes points de repère de joueurs de jeux vidéo et autres, mais après, derrière, tu te refais la main assez vite, quoi. Tu comprends tel bouton pour avancer, tel bouton pour faire une rotation de la capsule, tel bouton pour ceci, ça. Et en fonction de où tu te trouves par rapport à l'ISS, tu dis, bah non, là, je suis pas bien, faut que je me retourne, mais si je me retourne, peut-être je vais taper le panneau solaire. Donc c'est pas mal. Faut au moins l'essayer, et ça peut vous prendre quelques temps et comprendre au moins ce qui se passe là-haut, quoi.
Et vous dire, bah c'est bon, je suis prêt, je peux y aller.
Ouais, tu vas ramener ton CV avec ça dessus, tu sais. Je me suis arrimé en moins de 5 minutes.
Le décollage, c'est le 27 mai, donc c'est mercredi prochain, pour ceux qui écoutent l'émission en direct. C'est à 16h32 heure locale, mais en France, c'est 22h32. Et on peut suivre ça sur le site de SpaceX, mais aussi sur le site internet de la NASA, en direct.
Et à mon avis, pas sur Facebook, du coup.
Ils sont fâchés.
Avant de parler d'un autre simulateur spatial, je vous propose enfin d'écouter ce titre hein, qu'on a teasé en début d'émission. C'est le nouveau Bob Dylan. Je vous préviens, il n'y a plus la voix de Bob Dylan d'avant. Hein, on sent que ça raille beaucoup.
Revenez quand même après.
Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came. Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason,
an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Stranger, hello and goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something's got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died.
C'était Bob Dylan avec False Prophet, ce nouveau single qui sera disponible sur son nouvel album qui sortira le 19 juin, appelé Rough and Rowdy Ways. Voilà, Bob Dylan se remet à la chanson au plaisir de peu de gens, mais c'est déjà pas mal. On va parler d'aventure spatiale, vous connaissez sûrement ce jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, un des jeux de simulation spatiale les mieux réalisés, alors que à première vue, il semble un peu décalé, puisque les personnages que vous allez mettre sur les fusées sont des sortes de petits aliens verts.
Il y a une certaine courbe d'apprentissage dans ce jeu. C'est-à-dire
extrêmement
que...
longue et difficile.
Au tout début, c'est juste, tu construis ta petite fusée et tu l'as fait, enfin tu l'as fait décoller.
Puis tu déjà, faut y arriver.
Voilà, c'est ça. Puis ta fusée va être de plus en plus développée. Tu vas pouvoir y rajouter des satellites, etc. Enfin, c'est quand qui se proche. Ça reflète un petit peu la vraie évolution de la conquête spatiale aussi.
Alors, Kerbal Space Program s'est quand même vendu à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde.
Le tout premier, oui, effectivement. Il faut dire qu'il était disponible sur plein de plateformes. Il était sur PC, Mac, pratiquement toutes les consoles. C'est vraiment un jeu qui a très bien marché.
Non. Puis il était pas cher, je crois. Oui, une quinzaine d'euros au départ.
Maintenant, on peut le trouver pour, autour de 10 euros.
Bah, surtout qu'une nouvelle édition va bientôt être disponible. Et c'est incroyable. Alors là, je parle encore de l'ancienne version, de voir le réalisme et surtout tout ce qui est technique qui a été poussé jusqu'à l'extrême. Ici, la gravité.
Une simulation, jusqu'au moindre point, une simulation de tous les éléments qui composent la conquête spatiale.
Ah, mais le jeu a été tagué comme simulation et non comme arcade et compagnie. C'est vraiment le côté technique et il faut se prendre la tête.
Tu peux t'amuser un peu éventuellement à faire partir ta fusée où tu veux, mais c'est pas le but non plus, quoi.
Vous cherchez un jeu vidéo en vous disant je veux que mon enfant s'instruise en même temps. Alors attention, là on parle pas des 4-6 ans, on est mieux sur du 14-20 ans. Mais ça c'est vraiment extrêmement intéressant pour comprendre la gravité.
C'est moins dangereux et moins cher si t'as ton gamin qui te dit « j'ai envie de construire une fusée », etc. C'est moins dangereux de le mettre devant un PC avec ça que de le laisser bricoler tout seul dans le sous-sol.
Ça peut après peut-être créer des vocations.
Oui, même si on n'a pas, il doit pas avoir beaucoup de jobs open à ce niveau-là, mais bon.
Non. Le jeu n'est pas si vieux que ça. Il date de 2015, mais il est resté vraiment en version, bêta pendant de très très nombreuses années. Et c'est seulement en 2015 où il est sorti en version définitive.
Je me demande quelle différence il va y avoir qu'est-ce que le 2 va apporter en fait.
Alors, le 1 était excellent, c'était dans son côté simulation. Par contre, niveau graphique, c'est vrai qu'on pouvait pas faire des miracles non plus à l'époque, puisque là, on est dans un système solaire. Même si vous allez passer des mois à juste tourner autour de la Terre, au bout d'un moment, vous pouvez complètement aller conquérir d'autres planètes. Mais le 2 se base sur vraiment un aspect graphique plus poussé.
Oui, puis des nouvelles découvertes scientifiques, etc., des nouveaux produits. Mais j'imagine qu'ils ont dû réfléchir longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un nouveau jeu avec un nouveau moteur graphique, etc. Ou est-ce qu'on améliore l'ancien en y rajoutant des modules ? Peut-être qu'ils se sont dit au bout d'un moment, on va faire le saut, quoi.
Après, je me trompe peut-être, mais il me semble que l'équipe originale qui avait travaillé sur le 1 et qui avait commencé à travailler sur le 2, l'équipe a quitté le projet du 2.
D'accord.
À vérifier, mais il me semble qu'il y a une histoire.
Une décision managériale. D'accord.
Après, tu as la licence qui a été rachetée par Take-Two et qui a peut-être pas aussi forcément les bureaux adéquats pour ce genre de jeu.
Du coup, ma question, c'est ces gars qui sont partis. J'imagine qu'ils sont partis monter leur propre studio pour faire un autre jeu. C'est quoi ce jeu-là qui m'intéresse, moi. C'est pas la suite de Kerbal. C'est le jeu fait par les développeurs originaux.
Et on va terminer en rendant hommage avec...
Il n'est pas mort.
Notre mascotte. Bon, tu peux rendre hommage à une personne vivante, désolé.
Mais fête son anniversaire, c'est pas le nom.
Effectivement, avec quelques petits jours de retard, mais on ne peut pas manquer cette occasion de célébrer un peu avec Mr. T, surtout dans le domaine musical, puisqu'il y a cet album de référence qui devrait être dans toutes les discothèques. On va s'écouter Mr. T avec No Dope, No Drugs, parce que en France et même aux États-Unis, on ne se drogue pas. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
middle of the cloud. It's time for you to come down. Face to face the reality. It's better on level ground. I pity the fool who spends his time messing around with dope. It's okay if they call you square. You got promise and you got hope. Everybody say
no doubt.
Just because he thinks it's cool don't mean you have to trust him. You're okay the way you are. Learn to like yourself.
That's right.
You got mama's love and daddy's love. Don't need nobody else. Don't hang around with anyone who's tripping and drugging out. Take it from me, Mr. T, it's better to do without. Everybody say Mr. T don't drag. I'm happy just being.